Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast. Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, eh bien, on va parler avec ma femme d'aujourd'hui, qui l'a vécu d'expériences très particulières, de changement de paradigme en fait. Et surtout, un véritable shot de sérénité. On y va pour les détails.
Mehdi 1, Yasmine, femme d'aujourd'hui.
Khadija Jaouane, bonjour.
Bonjour, Lala Yasmine. Bonjour.
Merci infiniment, Lala Khadija, d'être ma femme d'aujourd'hui. Comment ça va?
Bien, toujours.
Alhamdoulilah. Enfin, toujours.
Depuis un certain temps, ça va. Super.
Depuis un certain temps? Pourquoi? Justement, pourquoi repositionner la réponse chronologiquement?
Oui, un certain temps et un temps certain. Donc, je ne sais pas depuis quand exactement, mais il y a, ça fait quand même longtemps, mais il y a cette évolution vers un mieux-être, quels que soient les intrants extérieurs. Et c'est ça le message.
Ouais.
C'est pas ça va parce qu'il fait froid, parce que les enfants sont là, parce que.
Alhamdoulilah. Alors, Lala Khadija, on avait eu l'occasion de parler de vous dans Femmes d'aujourd'hui au tout début. C'était en septembre 2021. Et on avait brièvement, rapidement... vous avez eu un changement de cap de vie, en fait. Vous étiez sur une trajectoire professionnelle, personnelle. Et puis, il y a eu un événement. Et cet événement fait que vous êtes la femme que vous êtes aujourd'hui. Et à l'époque, on était encore très frileux par rapport à cette thématique. C'est l'expérience de mort imminente. Mais là, nous sommes en 2024 et de plus en plus d'études se font à ce sujet.
Il y a de plus en plus de témoignages.
Et de plus en plus de témoignages. Et en fait, je me sens très en confiance de revenir sur ce sujet avec vous parce que c'est vrai que c'est une thématique qui est très, très délicate.
Je suis plus dans la paix entre le mental et l'émotionnel spirituel.
Justement, en quelle année a eu lieu cette expérience de mort imminente, Demi?
En quelle année? C'était en 92, c'est ma nouvelle naissance. Donc, dans quelques temps, j'aurai 32 ans.
D'accord.
Oui, donc c'est à la naissance de mes jumeaux. C'est ma deuxième grossesse. Voilà, c'était en 92.
Et pourquoi vous dites c'est ma deuxième naissance et pourtant c'est...
Parce que c'est une renaissance. C'est une renaissance. Moi, je l'ai vécu à la seconde où j'ai ouvert les yeux dans la chambre de la clinique. Il y a eu quelque chose qui a changé. Donc, au niveau énergétique, au niveau d'imprégnation de personnalité, il y a eu un chamboulement. Mmh.
Alors, vous êtes allée accoucher de vos jumeaux, c'est ça?
Oui, c'est ça. Un accouchement programmé, parce que c'était une grossesse à risque, difficile, avec 8 mois d'allaitement.
D'accord.
Et on attendait juste qu'il soit viable. Et on attend, c'était vraiment du jour par jour. Au moins, on est à 7 mois et quelques. Et c'était juste au 8e mois, donc on n'a pas attendu le 9e mois. Parce que bon, c'était de gros risques à courir avec un terrain cardiaque.
D'accord.
Un passé cardiaque, oui.
Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là?
Ce qui s'est passé à ce moment-là, et là c'est un appel, c'est même pas un cri, mais un appel au corps médical. J'ai su il y a une année et demie pour des soins dentaires. J'ai su pourquoi il y a eu cette expérience. Il y a des personnes, c'est pour ça que même les soins que je fais actuellement, il me faut de l'anesthésie sans adrénaline, parce qu'il y a ce terrain cœur pas au top, quoi.
D'accord.
Et oui, donc une anesthésie locale peut faire chambouler la vie, quoi. Et j'ai une nièce médecin qui m'a dit oui, mais. Et d'autres amis médecins qui m'ont dit le taux est tellement faible. C'était au moment où ils ont piqué pour la péridurale.
Ok.
Voilà.
Et donc ça a touché, ça a envoyé quel signal au cœur de, comme un arrêt cardiaque, c'est ça?
Oui, donc avec l'adrénaline qu'il y a dans ce genre d'anesthésie, ça a été trop fort. Donc pendant des dizaines d'années, bon, je pensais que c'était juste comme ça. Et un jour, c'est le chirurgien dentiste qui a vu ma tachycardie au moment où il a injecté un tout petit peu d'anesthésie, qui m'a dit « Vous auriez un problème cardiaque ?» J'ai dit « Oui, mais qui est géré. » Il m'a dit « Donc, stop, on attend. » Et il fallait attendre d'avoir l'anesthésie sans adrénaline pour éviter un problème particulier.
Mais à ce moment-là, voilà, les médecins qui vous prenaient en charge, qui vous ont suivi pendant les 8 mois de grossesse, savaient que vous aviez un terrain cardiaque?
Oui. Oui, mais même avec ça, le pourcentage
est très faible.
Donc, pour moi, les pourcentages, c'est vrai que même scientifiquement prouvé et tout, et là, c'est mon approche à moi spirituelle. Pour moi, les statistiques ne veulent pas dire grand-chose pour moi. Je dis bien pour moi, je souligne et je mets en gras. Pourquoi ? Parce qu'il y a des chemins de vie et il se peut qu'il y ait un risque de 1 pour 1000. Sur 1000 personnes, il y en a une. Ça pourrait être moi si ça fait partie de mon chemin de vie. Donc là, c'est une vie, c'est pas un chiffre.
Oui.
Quand on dit c'est juste 2%, c'est énorme. Parce que sur 100 personnes, on prend 2. Et là, j'augmente, je fais un zoom à l'envers et je me dis sur une population d'une ville comme 2 millions, 3 millions, ben on fait le calcul, ça fait des hôpitaux qui vont craquer. C'est beaucoup. Alors que quand on voit juste 1%, on n'évalue pas. Donc, et moi, pour moi, tout ça, ça rentre dans ce chemin de vie, des choses à vivre pour.
Pour vivre autre chose.
Pour vivre autre chose. Pour voilà. Et dans ce cas-là, il n'y a plus de résistance. Il y a un accueil et c'est bienvenu, quoi. Et c'est bienvenu, ça ne pouvait pas être autrement.
Alors, pour vous, est-ce que c'est important justement de parler de ce voyage? Aujourd'hui, il y a beaucoup de témoignages de personnes qui parlent de leur expérience de mort imminente. Est-ce que ce voyage en soi est important?
Pour moi, il est important. En parler, il n'est ni important ni pas important. Mais quand ça rentre dans un contexte, il est presque normal. C'est comme si... normal, pas l'expérience en elle-même, mais normal pour moi d'en parler. Ce n'est pas quelque chose à cacher et ce n'est pas quelque chose à crier sur les toits.
Je comprends. Donc, mais quelle est la part du vrai et quelle est la part du romancé? Parce que... On a l'impression que tous ces voyages se ressemblent, en fait. On sort de son corps.
Toutes les naissances se ressemblent, mais c'est jamais la même chose. Tous les mariages se ressemblent.
Parce que les gens répètent exactement les mêmes étapes, relatent les mêmes étapes. Sortir du corps, le tunnel, la lumière.
Non, j'ai pas vu de tunnel, j'ai pas vu de lumière.
Non,
je suis restée dans la salle d'opération. J'ai fait un bon tour, sous le plafond, dans la salle. Donc, je n'ai pas vu autre chose. Donc, ce n'est pas la même chose.
OK, d'accord.
Donc, j'avais un regard d'un certain angle, d'un coin. Et c'est ça ce que je garde, c'est comme hier. C'est cette précision dans les mots, dans les gestes. Je voyais tout dans les détails, j'entendais tout dans des détails inimaginables. Mais j'étais à changer d'angle, mais je n'ai pas vu de lumière, je ne suis pas passée par un tunnel. La porte ne m'a pas été ouverte, on m'a dit « retourne au corps, ce n'est pas encore le moment ».
Non, voilà. Tout ça, ça n'a pas eu lieu.
Non.
Mais justement, au réveil, est-ce que vous aviez cette prise de conscience de ce que vous aviez vécu?
Oui, la seule chose qui a pris, qui s'est étoffée pour se dissoudre dans les souvenirs, c'est les noms exacts de médicaments que j'ai entendus. Je les ai gardés en mémoire pendant, je pense, quelques années. Tout le reste est resté vraiment très net et je pouvais répéter la même chose au fur et à mesure et autant de fois qu'il le fallait. Avec les couleurs, avec le corps qui gisait en bas, avec le son du monitoring, le tout, 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 et puis tout, elle est morte. Donc j'ai entendu ça.
Ah, vous, ah ok.
Oui, j'ai vu ma cousine qui était l'infirmière qui accompagnait le chirurgien. Je l'ai vue, j'ai entendu ce qu'elle disait, je voyais tout, mais dans les détails de détails. Mm. Voilà. Mais je me rappelle aussi que c'était avant, juste avant de partir, j'ai tenu la main du médecin pour lui dire ma tension. C'était une chute de tension. Mm. Bon, après, qu'est-ce qu'il en a fait? Il a pris ça ou bien j'étais inconsciente? Parce que en fait, c'était une péridurale. Je ne devais pas partir. J'étais pas sous anesthésie générale. La péridurale, on garde conscience. On parle. Mais moi, c'était au moment de la piqûre que je suis partie et j'ai senti cette chute de tension que je faisais assez souvent. Mmh. Je faisais souvent des chutes physiques suite à des chutes de tension depuis petite, quoi. Donc, j'avais une référence du ressenti. Et je lui ai dit ma tension. Et là, ma tension, c'était tout ce que j'ai dit. Et après, elle a chuté plus qu'il ne fallait.
Je comprends.
Oui.
Et à ce moment-là, une fois que vous êtes revenu, ces gens avaient assisté à votre départ, en fait.
Oui,
parce qu'ils l'ont prononcé, oui. Ce mot.
Oui, bien sûr. Ouais. Surtout la cousine, parce que moi, je suis allée à cette clinique parce qu'il y avait cette cousine, quoi, pour les suites opératoires, etc. Donc, surtout elle, dans la famille, elle venait me voir, elle me disait la revenante, le baraka et tout ça. Et quand elle racontait, elle avait plus d'émotion que moi.
Oui,
quoi.
Oui, absolument, parce qu'elle l'a vécu.
Pas d'émotion du tout, moi j'avais pas d'émotion. Mm. Même au moment où j'entendais, je regardais, et ça c'était une expérience magnifique qui m'a accompagnée dans l'accompagnement, si on peut dire, des décès que j'ai vécu dans ma famille. C'est cette présence de l'esprit, de l'âme, cette présence qui n'est pas encore parti là-haut, mais qui est là encore. Le corps, il n'y a plus rien dans le corps, mais elle est encore là. Donc, et j'explique qu'on crie, qu'on pleure, qu'il n'y a pas de ressenti, il vaut mieux dire des choses autres. Donc, c'était une paix, une sérénité sans pareil et Et ce n'était pas de la romance. Parce qu'il y a vraiment par la suite, je cherchais dans mes souvenirs. C'était une sérénité, et c'est même pas sérénité dans le sens positif, c'était plus, voilà, une neutralité, c'était neutre, c'était du walou ressenti, même pas la paix, même la paix, ça a une connotation positive, mais là c'est ni positif ni négatif, c'est juste une présence.
Ouais.
Oui, alors c'est la même expérience pour tout le monde, je ne sais pas, mais
pour beaucoup, ça change un parcours de vie.
Oui, c'est sûr. Mais c'est certain. C'est certain. Pour moi, c'est vraiment, je le vis depuis, comme un sursis, comme une seconde chance, comme un éveil. Par la suite, j'ai fait beaucoup d'études, de formations dans l'accompagnement et tout. Mais pour moi, c'était sans effort. C'est pour ça, d'ailleurs, je le dis souvent là avec un certain sourire, quand je dis Monsieur Descartes, Allah yassamhek, parce que la pensée française, francophone, et des pays à enseignement de base francophone se réduisent, en fait, dont moi-même jusqu'à un certain point, se réduisent au mental. Tout ce qui est logique existe. Mm. Tout ce qui n'est pas logique n'existe pas encore jusqu'à ce qu'un monsieur découvre ou une dame découvre la logique. Donc, tout ce que je ne peux pas expliquer, d'après cette théorie, n'existe pas. Mm. Jusqu'à ce qu'il soit expliqué. Mais non, il existe, c'est juste qu'il n'est pas encore expliqué.
Est-ce qu'on peut revenir sur un point? Vous avez dit, justement, je comprends même dans l'accompagnement des personnes, quand il y a un défunt, on dit attention, il ne faut pas pleurer parce que le défunt entend, etc. Il ressent tout, etc. Est-ce que c'est vrai? Vous qui avez vécu cette expérience tellement particulière, est-ce que vous avez ressenti ce que ressentaient les gens sur place, dans cette salle médicale?
Oui. Oui, j'ai été là au moment où ma mère, ma tante, ma mère adoptive, parce que le premier truc qui a chamboulé la vie, c'est le décès des deux parents à l'âge de 1 an et demi. Donc j'ai eu la chance ou le chemin d'être dans une famille, ma famille, ma tante. Elle était là quand elle a lancé son dernier soupir. Donc, j'étais là plutôt, j'étais avec elle. Et c'était pour moi une joie, vraiment une joie, je choque des gens, une joie d'avoir été là au moment où elle a rendu la main.
C'était avant ou après l'EMI?
J'étais avant, pendant et après.
Non, ou après votre EMI votre...
Non, c'est après.
Après, voilà, après.
Oui. Oui, oui.
Donc, après, votre approche de...
Ça fait 5-6 ans, quoi. Ouais. Ça fait 5-6 ans.
D'accord.
Oui. Et un an et demi, ça fait un an et demi, un an et quelques mois, c'est aussi mon frère. Il était en clinique et j'étais avec lui. Donc, j'étais avec lui au moment, un peu avant. Lui, il a un peu plus souffert. Mais j'étais avec lui quand il est parti, le regard dans le regard. Et c'était magnifique pour moi. Que cette personne qui est en train de partir, elle est mon regard dans cet accueil et dans cet accueil, quoi. Oui.
Pourquoi?
Parce que je pense que tout ce vécu, tout ce départ, tout ce truc-là se ressent avec cette personne qui est en train de partir. Donc c'est comme si elle est
apaisée.
Embrassée. Elle est apaisée, c'est qu'elle est dans un câlin de pas, il n'y a pas de résistance. Oui, tu c'est le moment de partir. Il n'y a pas de résistance à retenir l'autre et mais elle va me laisser et je ne sais pas quoi. Non, elle est en train de partir et pendant qu'elle est en train de partir, je lui fais entendre en toute conscience, elle est encore consciente, toute cette gratitude pour tout ce qu'elle a donné dans sa vie et que là, elle est en train de rejoindre son créateur dans une paix, quoi. Il y a une ayant qui se dit souvent, et je le répète, dans les grandes catastrophes de quoi ? C'est pas une catastrophe, un décès, c'est un départ. Mais quand on parle de catastrophe, c'est toujours quelque part un petit chouïa égoïste, parce qu'on pense à soi, on est abandonné. La personne n'est plus là pour moi. Et c'est toujours pour moi, moi, ce que le Raïs ou le fille, Anna, qui va prendre soin de moi, qui va appeler, qui va, mais c'est toujours par rapport à moi. Et c'est Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Mais ça veut juste dire que nous sommes à Dieu et nous lui revenons. Donc si on met ça en pratique à longueur de journée, mais on est dans sa mission, tout ce que l'on fait, on peut partir d'un moment à l'autre, d'une seconde à l'autre, et on va revenir, c'est-à-dire retour au Vaskai. C'est un retour.
Alors, une dernière question. Est-ce que quand on a vécu cette expérience, justement, et vous abordez le départ des autres, le départ des proches, avec plus de sérénité, est-ce que ça enlève la tristesse de la séparation?
Non. C'est l'accueil des émotions dans le corps. J'ai vécu une tristesse le départ de ma mère. Ça m'a permis aussi de faire la paix avec tous les départs qu'il y a eu, même si je pensais avoir fait le deuil de toutes les personnes qui ont traversé ma vie. Donc il y a cette tristesse que maintenant j'accueille, mais je n'entretiens plus. Donc, je ne vais pas me poser dans cette tristesse à l'entretenir pour être dans un état dépressif. Non, il y a une tristesse, c'est comme si on reçoit un coup de couteau. On ne va pas dire qu'il faut être positif et ne pas ressentir la blessure. Non, c'est une blessure. C'est un organe qui s'arrache, c'est une personne qui s'arrache à notre vie. Il y a de la tristesse, il y a de la douleur et il y a de la sérénité. Et ça me rappelle d'ailleurs après le départ de ma mère, et j'étais beaucoup dans cette méditation. Et un jour, c'est dans un métro de Paris, c'était juste après, mon fils terminait ses études et je suis partie juste après, que j'ai éclaté en sanglots, et des sanglots limite hystériques. Et après, il y a eu des personnes, ma chère dame, est-ce qu'on peut faire quelque chose ? Merci, merci, mais c'est à un moment où ça a explosé. Mais juste que je suis dans cet accueil même des émotions pour les alchimiser.
Et vous savez qu'est-ce qui a déclenché à ce moment-là ?
Non, c'était juste, enfin, non, et oui, ce qui a déclenché, c'est que peut-être, je dis bien peut-être, c'est cet détachement à regarder de l'extérieur, et il y a eu beaucoup, beaucoup d'événements dans la famille, et à regarder et à me dire, oh, la chance que j'ai de l'avoir eu chez moi. J'ai eu beaucoup de chance, donc j'étais beaucoup dans le mental, à analyser, à prendre ce côté un peu positif et tout, mais il y a la face interne de l'iceberg. Et à ce moment-là, pourquoi le métro ? Pourquoi Paris ? Pourquoi cette ligne ? Je ne sais pas, je n'explique plus. Mais c'était juste des sanglots que je n'ai pas refoulés.
Exact.
Mais je ne refoule pas. Et pour mon frère, c'était la même chose. Enfin, la même chose, c'est jamais la même chose pour toutes les situations. Pour mon frère, c'était une relation symbiotique, une relation, on pourrait dire, même exclusive, parce que j'étais la seule avec qui il avait cette relation forte. Mais de temps en temps, oui, j'ai de la tristesse, mais plus pour lui que pour moi. Et des fois, je me dis, oh, pour lui, c'est quoi ça pour lui ? Lui, il est là où il est mieux que là où il était. Et donc, c'est ce va-et-vient entre l'émotionnel, le mental, pour l'apaiser. Voilà, et se préparer aussi au départ de toute personne, aussi chère qu'elle soit. Et là, je retrouve aussi un autre enseignement basé, donc très, très, très scientifique, avec, auquel j'envoie toute ma gratitude, c'est le professeur Aziz Lamrani. C'est ce shirk khafi. Chaque fois que je me dis « sans cette personne, je ne suis rien », j'associe à mon créateur autre chose. Non, je suis.
On s'en rend pas compte, hein, en fait.
Comment ?
On ne s'en rend pas compte quand on dit sans cette personne.
On ne s'en rend pas compte, mais c'est un travail magnifique. Donc, on donne beaucoup plus de valeur à la présence de l'autre, à ce que l'on fait. C'est aussi cette approche moderne dans le mot être dans la pleine conscience. C'est moderne, donc c'est quoi manger en pleine conscience, c'est quoi vivre en pleine conscience, c'est quoi avoir des relations en pleine conscience. C'est dans la présence, en donnant toute la valeur à ce présent, toute la valeur à cet entretien à l'Ella Yasmine. Et qu'est-ce qu'il va y avoir tout à l'heure ? Je n'en sais rien. Je peux planifier, mais je ne peux pas prévoir.
Absolument. Lala Khadija, merci infiniment. Khadija Jaouen, d'avoir été ma femme d'aujourd'hui.
Merci beaucoup, Lala Yasmine.
Je pense que beaucoup, beaucoup, beaucoup de notre communauté aujourd'hui se retrouvent, vont gagner en sérénité. Ne serait-ce que pendant la durée de cette discussion, un rappel finalement à maintenant et maintenant.
Et ça part, et ça accompagne.
Et ça accompagne. L'alertec, Lala Khadija Jaouen. Merci à toutes et à tous pour votre confiance. Femme d'aujourd'hui et sa version homme, c'est du lundi au vendredi sur les ondes de Médien et à tout moment, à la demande et en avant-première sur Médien Podcast et les plateformes de podcast habituelles.